J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Toi, t'es libre de compagnie, au fait, t'engages. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, ben, tu te méprises, donc, trouver une solution par rapport à ça.
Merci à tous d'être de nôtre ce mercredi 3 avril 2013. La Grande-Bretagne promet un don de 275 millions de dollars pour appuyer le secteur médical congolais. Il faut souligner que cette somme va permettre de financer un programme d'aide médicale qui s'appliquera à environ 10% de la population congolaise et s'étendra sur une durée de 5 ans. Parole aux auditeurs de ce jour vous donne l'opportunité de commenter cette actualité avec comme question principale quelles pourraient être pour vous les priorités dans l'affectation de ce fonds. Composez les 081 890 43 39 ou encore les 081 890 63 15 pour participer à cet échange et vous pouvez également déposer vos préoccupations sur notre page Facebook. Merci à Berry Franklin Lutsaka pour la réalisation de ce programme mis en onde par Paul Badianiam sous la supervision de Nicole Gata. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.fr. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons invité Dr. Lokadi, secrétaire général à la santé, pour échanger et aussi lui permettre d'orienter les opinions des uns et des autres par rapport à ces sujets d'actualité. Dr. Lokadi, vous êtes dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir fait ce déplacement. La première question aujourd'hui, il y a un don qui est tombé, un don promis par la Grande-Bretagne. Comment on va se permettre, disons, quelles seraient les priorités pour aider, donc les priorités dans l'affectation des secours.
Merci. Excusez-moi de corriger quelque chose. Vous avez dit promet, ce n'est pas promet, à accorder. À accorder au gouvernement de la République un fonds de 275 millions de dollars pour 5 ans, effectivement, qui va permettre de prendre en charge 10% de la population dans 56 zones de santé.
C'est 56 zones de santé.
56 zones de santé.
Dans l'ensemble, à travers le pays, nous avons combien de zones de santé?
615. Et puis, aussi aux structures intermédiaires de division provinciale et les directions centrales et programmes. Mais ici, il faut souligner que cette enveloppe, pour le moment, ne concerne pas les directions centrales. On est en train de travailler pour finaliser pour les directions centrales et les divisions. Alors, cette enveloppe, parce qu'on a fait les états de besoin, nous avons envoyé des équipes en province, on a fait les états des lieux, on a discuté avec la société civile dans ces zones, avec le personnel de santé et les autorités politico-administratives, et sur base de ça, on a décrit les domaines d'intervention. D'abord, le domaine d'intervention prioritaire, c'est d'abord les questions en rapport avec les ressources humaines. On va essayer, dans ces zones de santé, de pouvoir
renforcer
les capacités par la formation et aussi essayer de donner un complément au titre de prime pour, en plus de ce que l'État paye, pour permettre à ces personnes d'être disponibles pour offrir des services à la population. La deuxième chose, c'est les équipements et matériels. On a donné beaucoup d'importance pour renouveler les équipements matériels parce que dans beaucoup d'hôpitaux, aujourd'hui, le matériel est vétuste. Troisième domaine d'intervention, les médicaments. On voudrait vraiment que chaque zone de santé ait une ligne budgétaire qui permet régulièrement, comme ça se faisait dans le temps, chaque 6 mois, de pouvoir s'approvisionner pour renouveler les médicaments de façon à mettre fin à ce système d'ordonnance.
Voilà. Alors donc, ce sont des domaines d'intervention prioritaire.
Oui, et puis il y a aussi les infrastructures. Il faut réhabiliter les infrastructures construites là où vraiment on trouve que c'est de la paille, hein, pour la qualité des services. C'est la qualité des services aussi, c'est la qualité des infrastructures. Et puis il y a le système d'information. Comment se rendre compte qu'effectivement les dépenses engagées ont un résultat sur la population? Et avec les différents programmes, la vaccination des enfants, les soins de nouveau-nés, la mère et l'enfant, les soins des adultes, donc c'est ça qu'on va développer. Et puis aussi permettre de mettre en place un bon système de gestion. Vous savez, Joël, nous avons un problème dans le secteur de fonds de gestion. C'était un gros problème. Nous devons vraiment essayer de réformer le système de gestion pour garantir la bonne utilisation de ressources avec la bonne participation de la population. Et ça, j'ai oublié, on a vu aussi les aspects de pérennité. Comment pérenniser après 5 ans ces interventions dans ces zones de santé? Et c'est là l'implication des communautés. Et heureusement, comme nous avons dans un système décentralisé avec les ETD, qu'est-ce que les ETD pourront faire? Qu'est-ce que les provinces pourront faire? Et qu'est-ce que le gouvernement central pourra faire?
De façon rappelons que les ETD, c'est des entités territoriales
décentralisées. Voilà. De façon que, parce que nous avons cette enveloppe qui va diminuer avec le temps, il faut qu'au même moment, nous puissions concevoir des mécanismes propres au pays pour relayer au moment où on va arriver à la 5e année, qu'on soit capable de continuer ces interventions dans ces zones de santé.
Alors, il y a une préoccupation parce que selon toujours le représentant de la Grande-Bretagne, donc le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, l'aide financière de la Grande-Bretagne servira aussi à vacciner 64 000 bébés contre la rougeole et on procédera également à la distribution des moustiquaires RNA qui est dans ce programme-là.
Oui, justement. Donc, il faut dire que c'est vrai qu'on ne sait pas un moustiquaire interdit parce qu'ils le font déjà dans la province de l'Équateur et soit dans d'autres provinces. Et c'est une continuité, justement, pour la lutte contre le paludisme. Mais là, ce qui concerne la malaria, c'est une bonne chose parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Comme vous voyez, la question des épidémies de rougeole, c'est parce qu'à un moment donné, on avait des difficultés avec la chaîne de froid et l'acquisition du vaccin. Et maintenant, heureusement, on a réussi à régler cette question. Et ces fonds additionnels vont nous permettre de renforcer la vaccination dans les zones de santé pour réduire
Voilà, alors parce que vous avez parlé des fonds additionnels, ça nous pousse à nous faire d'ailleurs une idée, et je crois que les auditeurs qui suivent aimeraient bien se faire une idée exacte ou en avoir un carnet. Aujourd'hui, le budget de l'État, la part allouée à la santé, c'est autour de combien?
Il faut remercier le gouvernement, hein, parce que quand vous voyez le budget de la santé par rapport aux années antérieures, c'était dégueulasse. Maintenant, nous sommes tout compte fait. Parce que le budget de la santé, des niveaux central et province, environ 10%.
Environ 10%, donc ce qui fait en francs congolais, ça fait à peu près combien?
En tout cas, je ne peux pas vous mentir parce que je n'ai pas les chiffres en tête. C'est hier que j'ai eu la loi de l'été.
Oui, parce que si nous prenons le budget autour de 8 milliards, 7 milliards, donc le 10%, c'est pratiquement 700.
L'essentiel est qu'il faut dire qu'il y a une amélioration de la part de l'État pour le fonctionnement du secteur de la santé.
Voilà, donc parce qu'on voulait juste comparer avec les dons, qu'est-ce que ces dons représentent par rapport au budget, parce que nous savons que les partenaires viennent en appui. Hein. Voilà, c'est juste pour comparer et se faire une idée à quoi cela ressemble et puis ça représente
Quoi exactement?
On pourra se faire un tel exercice à une prochaine émission.
Voilà, merci. Nous avons des auditeurs qui sont en ligne. Ngandou de Kinshasa, Franklin de Bukavu et Cosma de Kisangani. Nous allons leur retourner la parole dans quelques instants, mais tout en vous rappelant que vous pouvez également nous rejoindre en nous faisant parvenir vos propositions et aussi vos préoccupations et en composant bien entendu donc le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Ngandou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Merci, à vous aussi.
Voilà, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. La question principale du débat, quelles pourraient être pour vous les priorités dans l'affectation de ces fonds, accordés par la Grande-Bretagne à la République démocratique du Congo pour appuyer le secteur médical?
D'accord, c'est M. Gaston. S'il vous plaît, je n'ai pas suivi dès le départ là. Je voulais juste savoir la qualité de l'invité. Il est qui là?
Le secrétaire général à la santé.
D'accord. Et puis, j'ai suivi quand même l'intervention de l'invité. Je constate que s'il y a, à mon avis, une situation, un problème qu'on doit tirer notre attitude, tirer notre attention ici, c'est, à mon avis, la santé de nos mamans ainsi que de nos enfants. Je pense qu'il a parlé de ça. Je vous dis qu'il y a un taux très élevé de mortalité maternelle ainsi que des enfants dans notre pays. Mais avant d'aborder ce sujet-ci, je voulais rapidement interpeller celui qui est là ici ainsi que le ministère de la Santé qu'il y a des faux médicaments qui entrent ici, des pirates. Ça, on parle de ça, sur le plan international. Il y a des médicaments et tout cela, ça cause des morts. Donc, une personne qui est malade et qui prend encore les médicaments piratés, ça achète la mort. En quelque sorte, les médicaments doivent être là pour sauver les vies et sauver les santé. Il faut faire un point sur organiser l'OCC pour qu'on puisse contrôler les médicaments, mais que les médicaments n'entrent plus ici. Mais par rapport à la santé de nos mamans, vous allez constater que on doit prioriser l'information. Nos mamans ne sont pas informées, les familles ne sont pas informées. Et même s'ils étaient informés, ils ne mettent pas ces conseils-là en pratique. Vous allez constater qu'il y a des conseils qu'on donne, par exemple, en ce qui concerne la planification des naissances. Ça peut, à mon avis, épargner la santé de si on respecte ça, mais sinon, ça ne se fait pas. Il faut aussi voir la maternité, c'est lorsque, en quelque sorte, il faut voir aussi que les mamans doivent être informées, à mon avis. Mais dans le cas de ce, si vous travaillez avec les associations. Parce que le ministère, en soi, ça fait un bon moment. Et vous savez, sur le plan international, on accorde aujourd'hui on accorde de la crédibilité au privé. Parce que les États, en soi, on a compris que ce sont des gens. Lorsqu'on alloue les gouvernants, lorsqu'on alloue l'argent, on emprunte, tout ça, on donne l'argent pour ceux qui sont dans la misère, qui souffrent. Le dirigeant en a profité. Et puis, on utilise maintenant les privés. Qui travaille avec les privés? Les privés doivent aller sensibiliser les familles pour qu'on puisse avoir l'information afin d'éviter, par exemple, les morts des mamans qui n'ont pas l'information, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a une grossesse, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'enfant est né, comment qu'il faut entretenir la santé de ses enfants, lorsque l'enfant a la diarrhée, qu'est-ce qu'il faut faire, la toux, les trucs comme ça, l'hygiène, la malaria, voire le sida. Nous devons informer pour que la santé de notre population et que la population aussi reçoit cette information et l'applique. Vous verrez qu'il y aura une grande amélioration. Avec cette forme ici, il faut se donner de l'association. Ici, en tout en passant, je salue l'initiative d'une association là, des mamans Wongo. Des fois, quand je passe ici, je parle de ça. Parce que je suis convaincu, ces mamans-là ont conçu même des syllabus qui doivent mettre au cours de leur formation, mettre à disposition des familles pour qu'on applique ça. Parce qu'on ne peut pas commencer à écrire seulement, il y a eu des morts, et puis on ne sait pas, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Nous vivons la saleté et on crie seulement aux morts. À part ça, vous verrez que ces morts-là sont attribués au péché. Voilà. Au péché, en soi, au péché.
Voilà, Gaston.
Et puis, le sorcier même, hein,
oui. Oui, Gaston, nous retenons trois choses. Hein. Vous avez, en fait, votre inquiétude, vous la placez, le compte de
de la mortalité maternelle, c'était vraiment un taux élevé. Vous avez évoqué aussi la question de faux médicaments, c'est-à-dire de médicaments contrefaits qui circulent. Vous souhaiterez que le ministère de la Santé puisse prioriser la lutte contre les médicaments contrefaits, parce que faute de mieux, les gens se contentent des médicaments qu'ils trouvent dans la rue, hein, qu'on expose à même le sol. Donc c'est question de revoir un peu le système de distribution des médicaments à travers le pays. Et d'ailleurs, nous avons eu l'information qu'il y a des cas de morts qui sont aussi signalés, des cas de décès, et déjà pour les cas de rupture de stock de médicaments au niveau de certaines zones de santé. Voilà, donc c'est une question qui va revenir. Et puis, en troisième lieu, vous avez parlé de l'information, donc la sensibilisation. Il faudrait qu'on puisse sensibiliser la population d'une manière consistante. Ces fonds doivent être affectés aussi pour le compte de la sensibilisation. Donc, on verra avec notre invité comment ils ont pensé à cette préoccupation. Merci, Ngandou, d'avoir appelé de Kinshasa. Franklin, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà.
Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je me permets de dire que pendant que cette émission est en train de se passer ici à Bukavu, plusieurs auditeurs ne sont reçus par les émissions de la radio Capitaine 95.5. Je pense que le service de Renater Sat et la radio Capitaine vont essayer un peu de régler ce problème-là. Je reviens maintenant sur la question du jour. Moi, je pense qu'il faut d'abord identifier le problème. Parce que ça ne sert à rien que l'on dit que 250 millions de dollars seront affectés dans le secteur médical sans connaître d'abord le vrai problème. Et moi, je pense que les problèmes sont particuliers pour chaque province et pour chaque partie du pays. Pour ce qui concerne l'est du pays, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus accorder une importance particulière aux violences sexuelles. Parce que vous savez, avec toutes les guerres que nous sommes en train de connaître ici, les femmes et les filles sont en train d'être violées du jour au jour. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut accorder une importance particulière aux violences sexuelles. Deuxièmement, il faut appuyer le ministère de santé. Vous savez, avec le niveau de vie que les Congolais ont, chacun n'est pas capable de supporter lui-même ce soin. Mais s'il y a des gens qui sont appuyés par le ministère de santé, nous voyons pas seulement FFP. Si le ministère peut aussi appuyer le ministère de santé, ça peut aussi alléger quelquefois les migrants des Congolais. En plus de cela, je voulais ajouter les infrastructures sanitaires. Vous le trouvez dans une ville, il y a trop d'infrastructures sanitaires, mais au village, il n'y a rien. Vous avez déjà qui font 3 km, 1 km, 6 km à pied avec les malades pour trouver une infrastructure sanitaire. Moi, je pense que si on apporte cet argent dans la construction des installations sanitaires, dans la construction des formations sanitaires dans les villages, je pense que ça pourrait s'apporter et réduire les misères des Congolais. Et après, je voudrais que les visiteurs prennent plus soin.
Voilà, nous avons des petits soucis avec son père.
Nous ne reconnaissons pas les forces des individus. Et moi, je pense que cette fois-ci, c'est doit profiter aux Congolais, parce que c'est une aide qui est accordée aux Congolais. Il ne faut pas que ça finisse leur chemin dans les forces des individus.
Voilà, Franklin, merci beaucoup. Alors, pour votre préoccupation de tout à l'heure sur le signal de Radio Capi, c'est vrai, notre équipe technique, c'est laquelle, hein, et selon les informations que nous avons, une partie de la ville de Bukavu, c'est vrai, est coupée de notre signal. L'équipe technique est en train de travailler là-dessus, donc je crois que dans les heures qui suivent, il y aura rétablissement de ce signal. Merci beaucoup, Franklin, mais nous retenons que vous préférez qu'on puisse beaucoup plus donner priorité à la question liée aux violences sexuelles et aussi appuyer les mutuelles de santé. Ça pourrait résoudre les problèmes et vous avez souligné que les problèmes sont particuliers pour chaque province. Donc il faudrait qu'on mette un accord sur ça. Merci beaucoup. Cosma, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Cosma.
D'accord. Merci d'abord de m'avoir accordé la parole. Et la simple chose, c'est quoi? Il y a le problème d'abord de la mentalité chez les Congolais. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un don. Et je crois que les gens qui sont là-bas, et le ministère et autres choses, commencent maintenant à frapper et à faire les calculs au niveau des télécommandes ou quoi. Et alors, donc, je sais comment est-ce qu'il peut se partager tel montant, ainsi de suite. Et c'est ce qui n'est pas bien. Quand on a quelque chose qu'on nous donne, et il fallait l'orienter directement pour ce qui est dit. Et ce qui fait que nous, les gens, ne puissent pas avoir assez de confiance aux Africains. Alors, pour entrer directement dans le sujet, simplement parce que quand on nous donne un don loué à la santé, il fallait d'abord savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec cet argent. Simplement, vous allez voir, même avec dans la démocratie, vous verrez que non, les taux de la malnutrition au Congo est tellement élevé. De sorte que les enfants continuent à mourir n'importe comment, il fallait d'abord éliminer la malnutrition. Et aussi, donner la possibilité à toutes les familles d'accéder aux soins médicaux. Et donc, diminuer les prix des médicaments. Et alors, comment on peut diminuer ça? On diminue ça dans plusieurs manières. Si soit on peut s'intéresser plus aux hôpitaux officiels, donc on alloue beaucoup de médicaments aux hôpitaux officiels. Parce que vous allez, je ne crois pas si vous pouvez me contredire, monsieur le journaliste, que non, ce sont des hôpitaux officiels qui sont trop chers que les hôpitaux privés pour le moment. Et alors, bon, je peux même vous rappeler avec ici chez nous, Sangani, l'hôpital de Cinquantenaire, ce n'est pas tout le monde qui doit accéder là-bas. Il faut être d'abord, il faut qu'on vous transfère tout ça de plusieurs manières. Alors que cela pouvait aider directement la population qui est pauvre d'accéder facilement aux soins médicaux. Et donc, c'est ça le vrai problème. Et autre problème, c'est quoi? Il faut voir de quelle quantité de médicaments et quelle qualité de médicaments. Parce que vous nous amenez les médicaments de troisième qualité. Et écoutez, on peut consommer plusieurs fois, mais à condition que vous pouvez seulement payer l'argent. Et le médecin lui a de l'argent. Et alors, vous donnez l'argent, mais vous n'êtes pas guéri. Donc, il fallait voir la qualité des médicaments pour faire maintenant supporter cette population qui est en train de disparaître à cause d'un caïman qui est la maladie. Et vous savez, il y a des maladies qui sont très graves ici chez nous au Congo. On ne manque jamais le paludisme, on ne manque jamais le sida qui est permanent, et ainsi de suite. Alors, ce sont des maladies qu'on devait plus s'intéresser afin d'éviter l'ingérence, donc la mégestion. Et alors, je demanderai à celui qui est là-bas comme invité. D'ailleurs, je lui pose une simple question. Qu'est-ce qu'ils ont déjà prévu dans leur plan après que cet agent soit là pour orienter cet agent dans chaque province? Donc, ils ont déjà prévu quel montant pour ici, pour la province orientale et effectivement pour la ville.
Voilà, merci beaucoup, Cosma. Je crois que si je comprends bien votre inquiétude, hein, vous voulez avoir une idée aussi. C'est le côté caché de votre question. Le plan national d'investissement dans le secteur médical, est-ce qu'il faut toujours attendre quand il y a des dons pour qu'on puisse réfléchir, ou bien il y a un travail qui est déjà fait en amont, parce que nous le savons, il y a beaucoup de textes hein, qui ont eu à aborder cette question, notamment les DCRP1, les DCRP2, il y a pas mal de stratégies, même sur la santé, mais finalement, on a des textes, hein, mais on ne sait pas comment les appliquer. Donc, on va y revenir avec notre invité tout à l'heure, Cosma, par rapport à votre préoccupation. Modeste, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour, les invités, bonjour, je suis de Radio Café.
Votre point de vue, Modeste.
Je voudrais préciser mes conseils parce que je suis pris en cours de décision pour me rappeler un peu les sujets. Alors, je vais poser mes idées.
Allez-y.
Bon, je vous dis de me remercier un peu parce que je suis client.
Bon, d'accord. Le temps que vous suivez les autres, nous, on évolue avec Galvani, qui est à Mbujimayi. Bonjour, Galvani.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous.
Votre point de vue, Galvani.
D'accord. Pour moi, je crois que ce fonds-là, on doit d'abord chercher à alimenter les hôpitaux d'abord officiels. Parce que nous constatons que les hôpitaux officiels aujourd'hui ont des sérieux problèmes d'abord sur le plan d'abord des équipements pharmaceutiques. Lorsqu'on vous envoie dans un hôpital de l'État, vous avez de fortes chances de laisser votre corps là-bas. Parce que vraiment, d'abord, les infrastructures sont vraiment dégradées, il n'y a pas vraiment une bonne chose en ça. Donc, c'est-à-dire, on doit d'abord chercher à redynamiser d'abord ces institutions-là et aussi à chercher à entrer dans le milieu rural là-bas. Il y a aussi, bon, là, au final, c'est vraiment, il y a des hôpitaux qui travaillent justement dans des conditions qui laissent à désirer. Alors, chercher à essayer un peu d'arranger les infrastructures sanitaires là-bas, ça va essayer un peu d'aider les gens qui vivent dans des pays.
Merci beaucoup, Galvani. On va clore ce premier groupe d'auditeurs avec Théodore qui est à Mbujimayi. Bonjour, Théodore.
Bonjour et merci pour la parole.
Théodore, votre point de vue.
Actuellement, notre pays doit se réjouir s'il y a des dons provenant des pays développés du monde, surtout dans les domaines de la santé, où la technologie est en train de prendre vraiment de l'ampleur. 175 millions de dollars doivent être répartis équitablement dans tous les hôpitaux de référence du pays. les équipements matériaux, par exemple, qu'on peut nous amener, il y a les médicaments dans les hôpitaux qui manquent, sans oublier la réhabilitation des infrastructures ici chez nous. Par exemple, ici au Kassai, les entités territoriales de santé décentralisées sont vraiment négligées. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est ceci. Il faut d'abord augmenter les billets alloués à la santé, de manière que si les dons arrivent, que ces dons soient comme un appui. L'appui, je dois faire des stocks en médicaments, en argent, pour bien travailler et bien gérer dans la transparence. Cela va représenter au monde une bonne gouvernance. Et il faut aussi penser à l'achat des ambulances dans les milieux ruraux. Évidemment, ici chez nous au Kassai, vous avez appris qu'il y a eu des morts vers Babila là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'énergie. Il n'y a pas de véhicule. Il faut transporter des femmes enceintes sur les vélos. C'est vraiment regrettable. On doit avoir des ambulances. Donc on doit répartir partout dans les pays, surtout dans les milieux ruraux. Merci.
Merci beaucoup, Théodore. 081-890-6315 ou encore les 081-890-4339 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Docteur Locadi, vous êtes le secrétaire général à la santé. Les auditeurs viennent là de peindre un peu le tableau, hein, le tableau de la situation du système de santé en RDC. Et ils ont quand même proposé, en tout cas par rapport à leur entendement, des priorités par rapport à ces dons. Et moi, je parie que ce n'est pas le premier don. Ce n'est pas le premier don que la RDC reçoit pour ce secteur. Mais alors, si on doit commencer, peut-être pour éclairer un peu l'opinion, et faire une petite évaluation sur les dons qui ont été déjà donnés, et ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on a fait de ces dons, et par rapport à la préoccupation de Galvani, qui dit, est-ce que vous avez un plan? Donc c'est plutôt Cosma, de Kisangani, un plan, ce que vous avez déjà prévu pour faire, de faire par rapport à ces dons.
Merci. Sincèrement, Joël, il faut dire que toutes les préoccupations sont des préoccupations pertinentes et ça cadre avec les priorités contenues dans le plan national de développement sanitaire, dont le PNDES 2011-2015. Alors, pour revenir aux différentes questions, avant d'arriver à aborder ça, je voudrais ajouter que ces dons aussi concernent le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Mm-hmm. Parce que 50% des de santé peuvent être résolus par une bonne, par la mise en place de services efficaces d'assainissement et de l'hygiène, et puis l'accès à l'eau potable. On est revenu plusieurs fois sur les questions d'accès au soin, je vais y arriver. Mais à ce qui concerne M. Ngandou Gaston, il a raison. Et d'ailleurs, dans le document,
dans le plan national de
développement, dans ce fonds-là, la priorité, c'est prendre en charge la population qui habite une zone de santé avec préférence au soin de la mère, nouveau-né et de l'enfant. Il a tout à fait raison et on a tenu compte de ça dans ce prévision. Alors, la question des faux médicaments. Moi, je crois que ça, c'était un débat et je vous demanderais peut-être qu'on puisse organiser une émission sur les dispositifs que le ministère est en train de développer pour faire face à ce problème de faux médicaments. Alors, la question. Alors, d'abord, pour lutter contre le faux médicament, il faut rendre les médicaments de bonne qualité dans les structures. Mm-hmm. Parce que comment cela se passe?
Cette structure, c'est
la population. Non, justement, la population, quand quelqu'un arrive, on a consulté, on a donné un papier, et c'est à ce moment-là qu'il va arriver à ça. Mais s'il y a des médicaments qui sont dans la structure, et que la personne qui a consulté la structure, et ces médicaments, et la possibilité d'avoir ces médicaments dans la structure, il ne va pas aller les acheter. C'est pourquoi nous sommes en train de faire, j'ai dit, chaque zone de santé aura sa ligne budgétaire pour permettre de rendre disponibles les médicaments qu'il faut dans le centre de santé et à l'hôpital général de référence.
Mais juste pour éclairer un peu la lanterne, parce que c'est vrai aujourd'hui, les gens ne croient plus, et les dons sont parfois mal utilisés. Parce que si nous prenons par exemple les cas de dons récemment faits par l'OMS pour assister les femmes enceintes avec les kits qui devaient recevoir, les kits de reproduction, mais aujourd'hui, si nous passons dans tous les centres de santé, non, les mamans se prennent en charge elles-mêmes. L'hôpital ne donne même pas ce qui était prévu gratuitement.
Joël, je préfère. Cette question, c'est une question fondamentale et ça constitue l'essentiel du travail au niveau du ministère de la Santé, qu'on puisse avoir une émission. Par exemple, quand vous dites qu'on a une population de 100 000 habitants, vous donnez 50 sites. Comment vous allez faire?
Voilà, je crois que ça va
c'est pourquoi je préfère vraiment des questions fondamentales comme ça, des questions systémiques comme ça, qu'on puisse avoir une émission à, comment vous appelez, à
téléphone ouvert,
pour que justement les gens comprennent.
Que les gens se fassent une idée.
Alors voilà. En ce qui concerne la troisième préoccupation de M. Ngandou, l'info, c'est, vous savez, dans le secteur de la santé, il y a trois domaines d'intervention. Le domaine curatif, le domaine préventif et le domaine promotionnel. Le domaine promotionnel, nous utilisons et nous sommes en train de renforcer la collaboration dans les zones de santé avec les associations de mamans, les associations de jeunes, pour que ceux-là, s'ils ont des capacités informationnelles, qui puissent aider les voisins, au niveau de communauté, au niveau des villages, au niveau des quartiers, avec la bonne information pour ce que les gens peuvent faire pour contribuer à leur propre santé. Et là, nous sommes en train de préparer pour travailler avec le ministère qui s'occupe de la jeunesse, le ministère qui s'occupe de la femme, de la mère, et puis aussi les associations de la société civile. Alors, je suis bien heureux.
Les propositions, donc,
justement, oui, parce que nous sommes obligés maintenant, pour lutter contre la mortalité dans ce pays, de renforcer la santé familiale au niveau de la famille, parce que ça, tout commence à ce niveau-là, et au niveau communautaire. Et avec ce que nous faisons au niveau des structures de santé, en synergie, on peut réduire la mortalité actuelle. Alors, en ce qui concerne le
Conseil de Bukavu,
parle
de problèmes particuliers à ce moment-là.
Bon, je vais vous dire que voilà. Ici, je vous ai dit que les états de lieux ont été faits par les zones de santé et chaque zone de santé a produit un plan. Dans ce plan, il y a des priorités locales. Ce n'est pas nous qui avons déterminé ces priorités. On a la société civile a participé à ces évaluations pour déterminer les priorités. Donc le plan, on va financer les interventions contenues dans le plan d'action 2013 de ces zones de santé et jusqu'à la fin du projet. À ce qui concerne les violences sexuelles, il y a une enveloppe qui est en dehors de cette enveloppe. La violence, c'est une question transversale qui est gérée par le ministère du genre et famille. Alors, à ce qui concerne la question du ministère de santé, nous avons parlé de l'accessibilité de la population aux soins. On va développer des mécanismes qui permettent justement à la population, parce qu'il ne suffit pas de créer des services, il faut que ces services soient utilisés. Il y a des mécanismes, par exemple, pour le groupe
de vulnérables. Les mécanismes ont été mis en place depuis, ça fait pratiquement 10 ans actuellement, partant de DCRP 1, DCRP 2, aujourd'hui avec le plan national de développement sanitaire, je crois que c'est déjà...
Mais ce n'est pas partout. Et vous savez, pour arriver à mettre ce mécanisme, ça demande un temps pour rendre ce mécanisme capable de pouvoir gérer
le chronogramme. Je crois qu'au niveau du ministère, il y a déjà un chronogramme.
Justement, vous savez, au ministère de la Santé, nous avons chaque année avec des plans annuels. Par exemple, pour le moment, tous les services centraux ont terminé les plans annuels, les provinces et les zones de santé. Et c'est sur base de ça qu'on fait une faisons des évaluations. Au mois d'avril, on va maintenant constater.
Mais comment vous évaluez ça vous-même, son impact sur le terrain? Parce que si vous passez, comme l'a dit un auditeur tout à l'heure, il parle des hôpitaux qui sont des mouroirs aujourd'hui. Il n'y a pas de médicaments, et si vous y allez,
j'arrive. Alors, on a parlé de questions des infrastructures, je crois que j'ai parlé de ça. Dans chaque zone de santé, voilà comment la zone de santé est organisée. Il y a un hôpital général de référence. J'ai parlé des équipements, matériels, médicaments pour l'hôpital, et aussi dans chaque aire de santé. L'aire de santé est constituée de 15 à 20 villages. Regroupés, il y a un centre de santé. Et là, il y a du matériel, il y a du personnel, il y a des équipements, il y a des médicaments. Donc, je voudrais vraiment rassurer son clair qu'on a tenu compte de ce en milieu rural. Alors, en ce qui concerne la gestion de fonds, la gestion de fonds de ces fonds, ce n'est pas le ministère de la Santé. C'est l'ONG IMA qui a été sélectionnée par BIPID, qui est la structure de coopération du gouvernement britannique à RDC. Le ministère de la Santé va s'occuper de la gestion programmatique, la planification, comme on a fait dans les zones de santé, la définir les besoins, mais l'argent est géré par IMA, c'est pas le ministère de la Santé. Toutes les questions logistiques, c'est IMA, c'est. Le ministère de la Santé va s'occuper de la formation, la supervision, la gestion, le système de gestion. Donc, le ministère de la Santé s'occupe des aspects techniques. Il faut vraiment préciser ça.
Voilà, alors,
Cosma Kisangani,
qui a parlé des plans,
qu'on a répondu. Mm-hmm. Alors, il y a parlé de questions de malnutrition. La malnutrition dans notre pays, c'est pour la sécurité alimentaire. C'est au niveau de ménage qu'il faut inciter la production des aliments pour lutter contre ça. Or, ce n'est pas la mission du ministère de la Santé, c'est la mission du ministère de l'Agriculture. Alors, en ce qui concerne l'accès aux prix des médicaments, je crois que c'est pris en compte parce que quand on dit accès aux soins, c'est d'abord la consultation, le diagnostic, et les médicaments. Donc tout ça s'est pris en compte.
Là encore, ça relance le débat sur ce que la Constitution, les dispositions de notre loi fondamentale qui parle de soins de santé primaire gratuits.
Justement,
là encore, c'est tout un problème.
Oui, les soins de santé gratuits, vous savez, la gratuité, il y a quelqu'un qui paye, dans tous les cas. C'est l'État qui va payer, ce sont les partenaires qui vont payer. Ça, ce sont des choses qui sont réglées. Oui. Pour appliquer les dispositions de la loi constitutionnelle.
Voilà, on va reprendre parce qu'il nous reste encore une trentaine de minutes, le temps d'accorder, si vous me le permettez, M. le secrétaire général à la santé. On va revenir sur la préoccupation de Galvani et Théodore, qui reste le premier des. On prend d'abord Sylvain qui est à Kinshasa et Rachel à Isiro, tout en vous rappelant, vous qui nous rejoignez, et que vous pouvez composer les 081-890-4039 ou encore le 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Sylvain, vous êtes à Kinshasa et Rachel à Isiro. Sylvain, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Patrick.
Voilà, Sylvain, votre point de vue.
Merci. Je pense que la santé reste un bien précieux. Et c'est là toute la population congolaise vivant à Kinshasa comme ailleurs. Alors, par rapport à ce don, je dis moi qu'il n'est pas le premier. Il y a des précédents dons qui ont été donnés, mais c'est comme on a toujours dit, l'essentiel n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce que l'homme fait de ce qu'on a fait de lui. On a enregistré plusieurs dons, mais par rapport aux réalisations, on se réalise que la santé est un secteur qui a reculé. Je prends le cas de 1960, avec les hôpitaux qui ont été laissés par les Belges. Et jusqu'à aujourd'hui, la population a grandi, mais pratiquement, on ne sent pas que la population, notamment l'Iran, a accès à la santé. Alors, je vais demander à la fin de l'invité, qui est sur le plateau, nous dise, par rapport au précédent don, quelles ont été les réalisations. Et pour aller maintenant aux priorités,
Je pense qu'il y a une grande priorité. Et je vais demander à l'invité, au niveau du ministère, ils doivent avoir un bon planning. Par là, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter d'aller à quatre chemins, toucher ici et là. Ils doivent être plus précis, parce que le Congo est un pays immense. À la fin, on risque de se rendre compte comme si cet argent n'a pas seulement profité aux besoins. Alors, la première priorité, à mon avis, il faut aller plus près de la population rurale. Et comme je le disais tantôt, depuis qu'on a le système des hôpitaux, et d'ailleurs qui ne sont pas à la bonne figure aujourd'hui, la population rurale souffre. Donc pour moi, il faudrait aller plus près d'elle en construisant des infrastructures, en équipant ces infrastructures-là, et aussi en réhabilitant. Donc en faisant cela, cet argent sera vraiment valoré et la population pourra être à l'aise. Il faut abolir notamment les charges sanitaires entre les milieux rurales et les milieux urbains. Parce que si vous prenez 50 ans, c'est parce que ça, il y a tout le monde n'a pas accès sur les grands hôpitaux. Maintenant, il faut donner la chance à tout le monde en construisant des hôpitaux dans les villages où on trouve qu'il y a 200 km, mais pas aucun hôpital. Donc ça, il faut abolir cet état sanitaire-là. Deuxième priorité, c'est qu'il faut un personnel qualifié. Donc, on a parlé de l'eau, de l'assainissement hygiène. Mais effectivement, c'est ça le problème, parce que l'eau, aujourd'hui, est encore la source de quelques maladies. Maintenant, il faut servir aussi... Allô?
Oui, allez-y, Sylvain.
Oui. Alors, il faut servir cette population-là à avoir aussi l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aussi hygiène. Ça, c'est très important. Il y a des villages aujourd'hui qui souffrent et vraiment on recourt toujours à des rivières, à des sources et autres encore. Donc, ce qui n'est pas du tout bien. Je pense que notre pays va essayer de figurer aussi au niveau sanitaire mondial et surtout de chercher à aller de l'avant. Ça n'est pas toujours resté par arrière, donc ce qui n'est pas bien.
Voilà, merci beaucoup, Sylvain. Vous avez parlé de la lutte contre l'écart sanitaire qui existe entre les milieux urbains et les milieux, disons, rural. Il faudrait que le ministère travaille dans ce sens-là. Ça constituerait, selon vous, la première priorité. Et aussi penser aux personnel qualifié, parce qu'il y a des coins où le système de santé fonctionne avec des personnes, en tout cas, qui ne les sont pas, et généralement, ça ne permet pas une bonne qualité de soins à travers le pays. Donc, il faudrait que le ministère soit un peu regardant de ce côté-là. Nous prenons Rachel qui est à Issiro. Bonjour, Rachel.
Bonjour,
Rachel. Et votre point de vue?
Oui, avant d'intervenir, j'aimerais bien vous dire quelque chose à vous, messieurs. Ça fait deux jours depuis le lundi que j'ai appelé, ça sonnait, mais il y avait personne pour me déroger. Je ne sais pas si parce que les mois de la femme, je n'ai pas changé.
Non, Rachel. Disons, nous présentons d'abord nos excuses. Vous savez que parole aux auditeurs, c'est nous recevons en tout cas au quotidien plus de 100, une centaine d'appels et aussi à l'amont, on essaye quand même de sélectionner. Et bon, on ne peut pas vous avoir tous au même moment, hein, mais vous nous excuserez. Je crois que nous recevons les premiers venus et aussi au niveau des réactions, nous disons, ben voilà, si on n'a pas pu vous mettre en ligne, bon, vous nous excuserez, mais c'était indépendamment de notre bonne volonté. Hein, voilà, on ne pouvait pas vous vêter par rapport à la fin du mois de la femme.
Je voulais tout simplement dire que c'est vraiment une bonne chose parce que la santé, ça se fait vraiment une place très importante dans la vie humaine. Et maintenant, ma question est de savoir, est-ce que, comme on parle de petits pourfants, est-ce que dans ces petits pourfants, nous, ici, on va faire partie? Parce qu'il y a des fois, nous nous attendons seulement de la radio qui non. On vient de faire et dont nous ne voyons pas. Alors ici, nous en avons tellement besoin, M. Gilles. ici, il y a des gens qui meurent à cascade. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens pour aller se faire soigner. Donc, la personne préfère rester à la maison, même si la personne souffre. Elle préfère rester à la maison parce qu'il n'y a pas moyen de se faire soigner. Mais je ne sais pas. On voit en fait ces mal de dents, c'est qui a fait tout ça. Nous, on essaie d'avoir des pharmacies dans le domaine. Il doit avoir qu'il y ait un peu de gens qui n'ont pas assez de moyens de gérer. Là, vraiment, je vous dis, c'est vrai. Ici, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. C'est impossible de se présenter à l'hôpital le moins que vous n'avez. Les gens meurent. Et vous voyez, des fois, il y a des épidémies qui viennent ici et ça s'attrape déjà assez facilement. Là, c'est parce qu'il y a Caradon qui caresse les soins. Il y a vraiment des soins ici, vraiment. Là, vraiment, j'en pleure vraiment. Vous avez vraiment décidé, moi, vraiment,
je peux pas dire. Voilà, donc vous reveniez carrément le point de vue de Sylvain, hein, qui parlait de l'écart sanitaire entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Donc je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus, hein. Rachel, merci d'avoir appelé. Paulin, vous êtes à Kananga. Bonjour Paulin.
Bonjour l'invité.
Voilà, Paulin, vous avez suivi tout à l'heure notre invité, et également vos prédécesseurs, hein, qui ont aussi fait des analyses par rapport à la question. Quelles pourraient être, selon vous, hein, les priorités dans l'affectation de ces fonds accordés par la Grande-Bretagne?
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'opportunité que vous m'avez accordée. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais heureusement, mes prédécesseurs ont déjà soulevé le cas pour l'instant, je veux juste aborder l'aspect de la gestion. La gestion, vraiment, c'est la gestion qui peut apporter la bonne rentabilité ou la concrétisation de ce fonds. J'aimerais juste demander à l'invité. Heureusement, il a déjà donné l'organisme qui doit gérer le fonds. Il a juste l'IMACC.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas le ministère qui va gérer ce fonds. Le ministère aura à intervenir sur le plan technique. Et c'est à ce titre-là que, déjà, au niveau des entités territoriales décentralisées et au niveau des divisions provinciales de la santé, il y a déjà un travail de fond qui a, à en croire les propos de notre invité, le travail de fond qui a été déjà réalisé pour faire l'état des lieux de besoins, hein, l'état des besoins, et aussi orienter les priorités par rapport à chaque province. Donc, notre invité l'a dit et je le confirme.
Ça va pour la prévision. Oui, j'aimerais maintenant lui donner deux petites questions. La première question est de savoir qu'il nous parle au moins noir sur blanc concernant l'affectation rationnelle de ce fonds. Puisque jusque-là, nous avons vu que les personnels de santé sont vraiment négligés dans notre pays. Et j'attaque un peu le principe de management qui dit que l'homme ne peut bien produire que lorsqu'il est bien motivé. La motivation du personnel de santé. Ces gens-là ne sont pas bien rémunérés, ils ne peuvent pas bien travailler. Il faut qu'ils soient aussi motivés, comme ça ils peuvent bien travailler. Et avec ce fonds ici, je pense qu'ils vont profiter pour faire les détournements puisqu'ils ne sont pas bien rémunérés, messieurs les journalistes. Et pour finir, je veux juste demander, il a dit que ce financement concerne 56 zones de santé sur 5 ans qui comptent notre pays. Alors qu'il me parle aussi quelles sont les zones de santé qui sont sélectionnées ainsi que leurs provinces respectives. Merci, je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, 500. Plus de 500 zones de santé, 56 seulement, hein, sont sélectionnées. Bon voilà, on dit toujours beaucoup d'appelés mais peu de lits. On va voir ça avec notre invité pour savoir comment on a réparti, hein, ces zones de santé. On va terminer ce groupe, cette série avec Malonga qui est à Bandundouville. Bonjour Malonga.
Bonjour Monsieur Gia.
Oui, ben, Malonga, votre point de vue.
Ok, ça va, je remercie aussi notre invité qui est là. Bon, moi, je veux dire d'abord que je remercie d'avance à la Grande-Bretagne de nous accorder ce fonds, puisque quelqu'un qui accepte de vous donner un crédit, c'est quelqu'un qui vous aime. Malgré il peut avoir d'autres intentions, mais c'est le remerciement d'abord. Mais ce que je veux dire au ministère de Fidel, c'est il faut savoir que ce fonds, c'est en charge de tous les Congolais. Puisque ce qu'on me suit, c'est un bac Lambert que nous prenons à la Grande-Bretagne. Il va être remboursé
d'une manière ou d'une autre par le gouvernement congolais. Alors, pour moi, je vois que ce fonds, il faut que le ministère organise une formation de renforcement des capacités de tout le corps médical. Puisque ce que nous vivons ici, à l'intérieur, ou bien dans de grandes villes, c'est mystérieux. Yeah. Puisqu'on n'arrive pas à comprendre si on est à l'hôpital, si quelqu'un est malade, et on lui apporte à l'hôpital, il faut d'abord qu'il prenne le premier soin, avant de demander à lui de l'argent, de ceci, cela. Mais ce que nous voyons ici, même vous arrivez à l'hôpital avec quelqu'un qui est agonisant, un médecin ou bien un infirmier ne peut pas le toucher si vous ne donnez pas le montant exigé là-bas. En tout cas, ça nous fait vraiment regrettable. Est-ce que la déontologie médicale et l'éthique est respectée vraiment au corps médical congolais? Alors, c'est faux. Le ministère doit organiser si ce séminaire, si des formations qui peut organiser à tous les infirmiers et médecins pour le faire mettre encore au niveau d'un bon sauveur de l'humanité. Puisque ils prêtent le serment, les médecins prêtent le serment, mais ils n'arrivent pas à prendre soin ou bien à concrétiser ce qu'ils disent, à sauver l'humanité. Encore aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, naissent, ce n'est pas encore à l'ordre de Dieu qui disait que les femmes auront des difficultés à la naissance. Mais aujourd'hui, c'est comme que les femmes mourront à la naissance. Si on arrive à l'hôpital général, ici chez nous, à Bandundu, vous devez passer par césarienne, qui n'est pas autorisée. Alors, c'est ce que je dis, que le ministre de l'hôpital doit organiser une formation avec ses forces de tous les corps médicaux, s'il vous plaît, pour que la population se sente que, après la réception de ces fonds, oui, il y a un changement de traitement, un changement de soins. Là, on sera fier et que oui, ce que nous recevons, malgré notre pays, encaisse le crédit, mais ça nous serve aussi de quelque chose de bon. C'est ce que moi, je raisonne de ce fonds.
Voilà, merci beaucoup, Malonga. Freddy, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Freddy.
Oui, bonjour, monsieur, un autre invité.
Voilà.
Oui, allô?
Vous avez la parole.
Allô?
Oui, Freddy, oui, vous avez la parole.
D'accord. Ok. Vous voyez, l'article 25 des droits de l'homme, si je peux lire un peu, dit quoi? Toute personne a droit à la santé. C'est ce que moi je veux dire. Je veux dire ceci. Vous pouvez réciter, s'il vous plaît. Je veux dire ceci. Vous voyez, le Congo, ce n'est pas ici à Lubumbashi ou Kinshasa ou peut-être Mbujimayi, non. Le Congo, même c'est parti par là. C'est moi je veux dire. La campagne là, ça tombe bien.
Mais c'est pas une campagne.
Freddy,
il faut qu'on. Il faut vous permettre d'avoir une idée. Ce n'est pas une campagne, c'est un don accordé par la Grande-Bretagne pour appuyer le secteur médical en RDC. Voilà, donc nous cherchons maintenant des priorités. Vous êtes à Lubumbashi. Comme vos prédécesseurs l'ont dit, Ngandou a parlé de la lutte contre les médicaments contrefaits. Il y a d'autres qui évoquent la priorité sur le renforcement des capacités et aussi chercher à avoir le personnel qualifié au niveau des institutions médicales. Vous proposez quelle priorité?
Oui, ça va, merci beaucoup. Là, vous voyez, mais déjà, ce que moi j'ai dit, il faut d'abord, et donc là, ça tombe bien. Mais il faut descendre même au village pour aller voir les gens qui sont en train de souffrir là-bas. Ça ne veut pas dire que vous venez avec vos dons là, vous donnez celui qui est en ville, mais vous laissez ceux qui sont au village. Non, tous ce sont les peuples congolais. Il faut que vous descendez même au village, parce qu'au village, moi, monsieur, j'ai déjà été au village pour acheter là, au niveau des Malimakul, pour acheter les poissons salés. Je vous dis, si vous trouvez là-bas, les personnes qui sont là, ils sont en train de vivre dans une façon, vous ne pouvez pas dire que non, la vie, ça se passe comme ça. Non, parce qu'ils se baignent l'eau des rivières, excuse-moi d'abord, l'eau des rivières.
Donc ils n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà,
là, il faut
voilà.
Que ça tombe, ça part même là-bas.
Voilà, si je comprends, vous souhaitez.
Ici.
Donc vous souhaitez que, qu'on puisse inscrire dans les priorités l'accès à l'eau potable hein, au niveau de la population rurale, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais ça tombe encore. La cette zone-là, on compare, donner même toutes les personnes qui sont là-bas au village. On ne peut pas donner comme on avait donné.
Donc on distribue cet argent à tout le monde au village.
Même, on ne donne pas assez au village, non.
Mais je ne comprends plus rien, je dis. Donc vous voulez qu'on puisse distribuer cet argent à tous ceux qui sont au village. Bon, de toute façon, notre invité, l'invité, je sais qu'il a compris votre préoccupation. On va lui donner la parole pour, orienter votre préoccupation. Mais alors nous, revenons à vous, docteur Locadi, avant le budget d'information, si vous pouvez peut-être revenir sur la préoccupation de Galvani et Théodore d'abord. Et puis bon, après le bulletin d'information, on reviendra sur les autres, Sylvain et Rachel, et aussi Freddy et Malonga. Alors, Galvani, tu parlais de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux. Comment fonctionne le système d'approvisionnement? Donc, est-ce que vous y mettez aussi une priorité?
Merci, Joël. Je crois que j'ai insisté plusieurs fois sur la ligne des crédits. La ligne des crédits, c'est au niveau de la centrale de distribution des médicaments. C'est chaque zone de santé.
Le DCMP n'est pas le plus.
Non, non, le DCMP a, quand on a mis le temps à durer, nous avons le FEDECAM, qui est la Fédération d'achat de médicaments, qui distribue au niveau de centres de distribution qui sont en province. Et c'est à ce niveau-là qu'il y aura des lignes de crédit pour permettre à chaque zone de santé d'accéder aux médicaments, équipements et matériels. Nous avons parlé des infrastructures. C'est un domaine important, nous avons tenu compte de ça. Alors, on a parlé des discriminations entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Ces fonds, quand vous voyez, 75% de ces fonds, c'est les milieux
ruraux.
75% c'est les milieux ruraux. Et puis, les gens ont parlé de Kinshasa. Kinshasa n'est pas concerné par ce fonds. Alors, je reviens par l'autre qui a posé la question. C'est quand 6 zones de santé concernent l'Équateur, 11 zones de santé. Café occidental, 28 zones de santé. Le Maniema, 10 zones de santé. La province orientale, 3 zones de santé. Et le Sud Kivu, 4 zones de santé. Et ces zones de santé ont été discutées avec DIPID, l'agent de coopération du gouvernement britannique. Parce que eux aussi, ils sont sous le terrain.
Si vous permettez, on va revenir sur les 56 zones de santé, comme vous l'avez dit, à l'Équateur, et aussi nous avons une idée dans l'ensemble. On va revenir à vous, docteur Locadi, parce qu'il nous reste encore un quart d'heure. On va sentir encore les réactions des auditeurs. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Docteur Locadi, vous parlez tout à l'heure de 56 zones de santé concernées par ces dons. Si on peut encore revenir pour rapprocher la mémoire des auditeurs et aussi nous permettre donc de faire une idée sur la question.
Oui, je disais qu'il y a 56 zones de santé. C'est parti de la manière suivante. La province de l'Équateur, 11 zones de santé. Kasaï occidental, 28 zones de santé. Le Maniema, 10 zones de santé. La province orientale, 3 zones de santé. Et le Sud Kivu, 4 zones de santé, soit une population totale de 8 300 000 habitants.
Voilà. Alors, si bien parler de dons précédents, parce que ça, c'est pas le
voilà.
Point de dons.
Justement.
Voilà. Et
justement, c'est là que j'ai dit, c'est la deuxième mission que je vais solliciter de votre part.
Mm-hmm.
Parce que, au mois d'avril, nous allons aller en province pour faire le suivi de réalisation de premier trimestre. Et on va le faire avec tous les partenaires du secteur de la santé. Alors, à ce moment-là, nous aurons des éléments pour maintenant rendre compte de ce que nous aurons fait au premier trimestre avec l'argent que nous avons reçu, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les contraintes qu'on a pu
rencontrer,
qui n'ont pas fait,
qui n'ont pas permis de
pouvoir réaliser, et qu'est-ce qu'il faut faire pour le deuxième trimestre. C'est comme ça que nous sommes appelés. C'est pourquoi je sollicite votre invitation.
Donc, vous avez déjà sollicité trois émissions par rapport à des thématiques un peu différentes. Nous allons pratiquement vous les accorder donc, au moment opportun. Voilà.
Et puis, Rachel,
Théodore
a parlé
de la répartition.
Qu'il faut donner à tous les hôpitaux. Impossible. Nous avons 445 hôpitaux dans le pays.
De référence.
C'est impossible. Et je dois ici insister. Il y a d'autres financements. Il y a la Banque mondiale, il y a la coopération belge, il y a la Banque mondiale, il y a l'USAID, le gouvernement américain.
Il y a même le Fonds mondial.
Et le Fonds mondial aussi. Il y a plusieurs financements qui sont destinés aux zones de santé.
Et pourquoi ne pas faire comme.
Et
comme
puis l'État lui-même, vous dites que le ministre de la Santé. Je l'ai de signer 80 bons d'engagement pour financer le fonctionnement des 80 hôpitaux de l'intérieur. Il faut féliciter que ça fait longtemps.
Et espérons que ça sera toujours le cas, qu'il y aura une autre, une tierce personne qui va gérer pour ne pas garder toujours des
médecins
comme l'image.
Mais je ne vous en faites pas. Dans le secteur de la santé, nous sommes vraiment en pleine réforme. Nous avons réformé le système de gestion. Nous avons une agence financière qui s'appelle KPMG, que beaucoup de gens connaissent. L'argent au niveau des provinces est géré par KPMG. L'argent que l'État envoie. Le ministère de la Santé, j'ai insisté sur toutes les questions programmatiques, les questions techniques.
Voilà, le secrétaire général.
Mais vous n'avez pas terminé avec la question de Théodore. Théodore a parlé de
l'hôpital de référence.
Oui, l'hôpital de référence. C'est pris en compte les questions de logistique, transport, les véhicules. C'est pris en compte. Et aussi la question de l'énergie. Il y a des groupes électrogènes, le système solaire. C'est pris en compte. La transparence, c'est ce qui fait qu'on a séparé la gestion programmatique. Avec les gestions financières. Nous ne voulons plus nous occuper des problèmes d'argent.
Voilà, Radja est à Kananga. On va terminer avec cette dernière série des auditeurs avant de vous quitter, chers auditeurs. Edgar est à Kananga également. Emmanuel Aïsiro. Radja, bonjour. Radja, vous êtes avec nous? Voilà, on ne saura pas vous passer à l'antenne avec cette mauvaise qualité de communication. On prend d'abord Edgar, le temps que votre ligne puisse vraiment s'arranger. Edgar, vous êtes dans la même ville que Radja. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Edgar, votre point de vue.
Voilà, dans le secteur de la santé, à RDC, il y a trois principales sources. Il y a le budget de l'État, la population et l'aide extérieure. Nous ne devons pas vraiment nous réjouir de l'aide extérieure, qui n'est pas vraiment une mauvaise chose, mais le gouvernement doit augmenter le budget alloué au secteur de la santé. Si on veut vraiment assurer une bonne santé à la population congolaise. Alors, pour que cet argent soit bien utilisé, je pense qu'on ne doit pas l'utiliser pour financer les systèmes, des nouveaux programmes de lutte contre ces systèmes-là. Il faut vraiment qu'on finance les systèmes de santé, comme le disait la Dubaï dans son ensemble. Parce que vous remarquez, monsieur, dans les programmes-là, les politiciens s'en emparent pour vraiment accepter les aides de leurs membres, les membres de leur famille. Alors, la population qui doit bénéficier de. Il faut éviter de créer de nouveaux programmes de lutte contre ces sujets-là pour vraiment favoriser les membres de famille de telle ou d'une autre personne. Alors, pour. Parce que l'État a dit là, il y a 500 zones de santé. Il faut dire que nous sommes passés de 306 zones de santé à 515 zones de santé. Parce que chaque politicien a considéré qu'il a comme un moyen de foyer les ressources à sa communauté. Donc, les politiciens ne puissent pas vraiment user de leur influence. Dans la répartition des fonds que le gouvernement britannique a donné à la RDC. Merci.
Merci beaucoup, Edgar. Là, vous lancez une sonnette d'alarme. Hein. Auprès du ministère et aussi au niveau du gouvernement, parce qu'on sait que quand il y a, selon vos propos, quand il y a de l'argent, c'est une occasion pour le gouvernement, au travers de son ministère de tutelle, de pouvoir créer des programmes sur tel programme, sur telle maladie. Alors, donc, pour le cas d'espèce, vous souhaiterez que l'argent soit utilisé correctement et aussi soit affecté pour les programmes qui est pris en compte. Merci beaucoup, Edgar. Emmanuel, vous êtes à Issyro, on va terminer avec vous. Vous êtes le dernier auditeur qui va boucler les débats. Vous êtes avec nous, Emmanuel. Bonjour.
Voilà, on a des petits soucis également avec Emmanuel, donc là on sera obligé de l'interrompre.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Voilà, vous avez la chance Emmanuel. Votre point de vue.
Ok, je voulais présenter mon inquiétude à l'invité concernant la répartition des zones de santé sur toute la République. Alors, on a parlé des trois zones de santé pour la province orientale. Je ne sais pas si notre zone de santé est aussi concernée de cette situation. Car ici, à Issy, les femmes acceptent mère pendant l'accouchement. Au moment où il y a l'accouchement, si se pose un problème, le médecin demande qu'on puisse intervenir par césarienne. Et que la personne présente une somme d'argent, si c'est minime, on néglige la situation. Alors, à ce moment-là, on demande à la personne de compléter la somme afin qu'on puisse intervenir la femme. Alors, c'est ça la première préoccupation. La seconde est la suivante.
Oui, rapidement, parce que vous avez 40 secondes.
Au niveau des centres de santé, quand vous vous présentez là-bas avec un malade, s'il n'y a pas de moyens, les professionnels ne doivent pas toucher à la personne. Il n'y a pas de soins qu'on peut administrer à la personne qui est malade immédiatement. Néanmoins, qu'on puisse verser une somme d'argent et que l'on puisse donner les soins appropriés à ces malades. Les professionnels disent ceci. L'argent qu'on finance est souvent l'argent que l'État donne est mal réparti. Ce ne sont que les médecins qui gagnent beaucoup d'argent et les infirmiers qui sont là-bas à gagner très petit.
Voilà, merci beaucoup Emmanuel. Je crois que votre invité vous a suivi pour également vous faire une idée sur votre préoccupation. Raja, on va terminer avec vous, Raja, rapidement. Vous n'avez que 40 secondes. Raja, bonjour.
Bonjour.
Voilà, votre point de vue, Raja.
Non, je pense que votre point de vue, Raja, à 40.
Allez-y rapidement, vous perdez déjà le temps.
Oui, je vais aussi ajouter à votre invité.
Voilà, nous parlons pas les mêmes langages, Raja. Là, vous nous amenez sur le terrain d'éducation. Bon, voilà, on va peut-être revenir avec vous très prochainement dans un sujet qui aura trait à l'éducation. Docteur Lokadi, on va conclure cette émission ensemble avec vous. Vous répondez d'abord aux préoccupations des derniers auditeurs et puis un mot de conclusion.
Merci. Donc, très rapidement, je voudrais dire à Sylvain, à Kinshasa, qu'on ne va vraiment pas construire les hôpitaux dans les villages. L'hôpital, ça coûte trop cher. Il faut 100 000 habitants pour rendre l'hôpital fonctionnel. Deuxième chose, à ce qui concerne la formation, il y a un programme de formation. Et puis, nous sommes en train de mettre un programme au niveau de la deuxième direction de comment utiliser les spécialistes pour appuyer les hôpitaux provinciaux et les hôpitaux des zones de santé pour renforcer les capacités. Alors, à ce qui concerne Rachel, je crois qu'il a, j'ai répondu.
Oui, vous avez répondu à la question.
Les problèmes, la gestion, effectivement, la gestion, c'est vraiment, on a mis beaucoup d'accent pour la gestion. Il y a une réforme des organes de gestion dans tous les hôpitaux qui va intervenir incessamment. Alors là, je crois que c'est tout. La répartition. Bon, j'ai répondu.
Vous avez répondu déjà à la répartition.
Ah, M. Malonga. Donc, le choix des zones de santé a été discuté avec DIFID, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Et puis, il a parlé des questions d'éthique et de déontologie. Effectivement, nous voulons travailler avec les corporations, donc l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'association des infirmiers, pour des questions d'éthique. Mais il y a aussi des questions qu'on a soulevées, les dispositions, les textes. Il y a des textes qu'on a pris en 1978 qui font que les recettes devaient résoudre les questions de rémunération du personnel. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Ils sont préoccupés à pouvoir revisiter tous ces textes pour les adapter à la situation actuelle. Parce que l'État, qui a cessé en 1978 de financer les hôpitaux, commence à les financer. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse continuer avec ces dispositions réglementaires. Alors, et puis, à ce qui concerne Freddy à Lubumbashi, je crois que je connais Mme Bakou, j'ai été là. Freddy, le village est regroupé en aide de santé. Le village dont vous parlez, vous avez été là, il se trouve dans une aide de santé. J'ai dit une aide de santé, c'est 15 à 20 villages, il y a un centre de santé, les villages seront servis. Et puis, Edgar,
Voilà, on a pris assez de temps.
Je crois que nous sommes partis en 1982 avec 307 zones de santé.
On y reviendra après l'évaluation des premiers trimestres.
Voilà.
On va faire l'évaluation de mes parcours et pour nous permettre de nous faire une idée sur les précédents dons et les dons qui actuellement accordés, comment ça sera affecté. Merci beaucoup, Esther Locadi, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait le déplacement de ce studio pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. À très bientôt avec vous.
Ouais, merci.
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Berry Franklin Chaka sous la supervision de Nicole Daka. Bonne suite des programmes sur Okapi. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. À très bientôt.